Avez-vous peur de vous planter? Vous savez, là, cette espèce de trouille qu'on a tous, un peu trop souvent d'ailleurs, de faire un mauvais choix ou de prendre une décision qu'on pourrait regretter, au pire encore, parce qu'il y a aussi de ça, d'exposer nos faiblesses à la face du monde. Bien, vous n'êtes pas seul, parce qu'on serait aujourd'hui terrorisé par l'échec. Mais en tout cas, c'est la conclusion des experts qui s'intéressent à la place de la performance dans notre société. Pourtant, là, sur papier, on est tous capables de reconnaître qu'une déconfiture, là, ça a rien de grave et c'est très relatif. D'abord, qui nous jugerait vraiment, au fond? Hein? Peut-être quelques collègues, nos faux amis Facebook. À la rigueur, mon oncle Jean-Guy au prochain party de Noël. Mais on sait tous qu'une bonne débloque, ça peut aussi rendre service dans une vie. Soit nous amener vers autre chose de plus riche, de plus stimulant, ou encore nous permettre de mieux se connaître. Alors, pourquoi on a si peur de l'échec? C'est la question qu'on s'est posée à Châtelaine et par le fait même le sujet de notre première balado-diffusion. Bon là, je vous entends déjà demander, mais quelle est donc ton expertise en matière de balado, mon cher Châtelaine? Aucune, OK? On se le dit, aucune. Mais bon, on s'est dit, qu'est-ce qui peut arriver de bien grave? Au pire, vous allez passer un mauvais moment parce qu'on s'est planté. Mais bon, ce sera juste sur le concept. Alors, sans plus tarder, je vais même au-delà de ma propre peur de l'échec et j'ose renoncer à l'anonymat. Christelle Crépeau, rédactrice en chef de Châtelaine, bienvenue dans cette première émission. C'est parti! Alors, bienvenue à cette première émission d'une série, on l'espère, dans laquelle on va aborder des enjeux de société, mais aussi des sujets liés à la santé, la mode, la culture et l'actualité, bref, tout ce que vous aimez de votre magazine. Sérieusement, pourquoi se lancer dans la balado? Ben, tout simplement parce qu'à la rédaction, on est passionné par ces sujets-là et on avait envie d'aller au-delà de l'écrit pour vous les partager. Et je dis « on » parce que nous sommes quelques-unes à la table aujourd'hui. Je vous présente tout de suite mes collaboratrices du jour. D'abord, Joanne Lauzon, rédactrice en chef adjointe et chef de section santé, qui va, dans le cadre de cette émission, déboulonner quelques idées reçues sur la santé. Bonjour, Joanne.
Bonjour, Christelle.
De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Alors, nos perceptions sur l'avortement.
Oh, quand même, c'est du sérieux, c'est du costaud. Ensuite, Sophie Saint-Laurent, chef mode beauté. De quoi nous parles-tu aujourd'hui, Sophie?
Aujourd'hui, je vous parle de customisation. C'est un mot de plus en plus à la mode dans l'industrie de la mode et de la beauté.
Et pas très français.
Et pas très français.
On en reparle. Martina Diogo, rédactrice en chef numérique, bonjour.
Bonjour.
Toi, ça va faire plus dans le viral.
Oui, exactement. Donc, cette semaine, je vous raconte en fait l'histoire d'une poupée qui se prend déjà pour une vraie femme.
Intriguant. Ouais, on verra ça. Donc, en deuxième partie d'émission, parce que en plus de ces sympathiques chroniques, qui j'en suis sûre, vous mourrez d'envie de les entendre, nous aurons à chaque balado une discussion sur un thème société. Aujourd'hui, j'espère que vous l'avez deviné, sinon aussi bien d'aller tout de suite quitter cette balado pour regarder une vidéo de chat, on parle d'échec. Pourquoi en avons-nous si peur? J'en parle avec Marie-Hélène Proux, qui est journaliste à Châtelaine, mais aussi auteure du dossier sur ce sujet-là, que vous pouvez lire dans le plus récent numéro de Châtelaine. Alors, bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Christelle.
Tu es auteure de ce dossier, très intéressant, je dois le dire, pas du tout de billets favorables.
Non!
Mais tu es aussi la première à être arrivée en réunion de rédaction avec cette idée de parler d'échec. Alors, moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a amenée à t'intéresser à ce sujet-là? Est-ce que c'est notamment parce que tu comptes quelques bévues au compteur toi-même ou?
Répertoire assez vaste d'échecs amoureux. Est-ce que ça compte?
Ça compte. Okay. C'est très, très valable. Si tu veux, on peut reparler dans la partie off-balado qui implique de l'alcool. Donc, sinon...
On peut pas commencer tout de suite.
Hein? Pas tout, j'attendrais.
Eh bien, en fait, j'étais tombée sur des études qui montrent que les femmes, peu importe le pays, ont systématiquement plus peur que les hommes de se lancer en affaires tout d'un coup qu'elles se casseraient la gueule. Et là, s'ajoutait à ça le constat qu'elles sont moins nombreuses à briguer les hauts postes dans les organisations ou en politique, qu'elles prennent moins de risques en général. Et ça m'a conduit à l'hypothèse que peut-être la peur de l'échec est un obstacle pour les femmes, pour réaliser leur plein potentiel, comme disent les psys. Et je me suis dit que ce serait inspirant de récolter des témoignages de filles qui se sont plantées, puis solides à part ça, là, et qui en sont pas mortes, pour dédramatiser l'échec. Mais finalement, mon hypothèse, je dois dire que c'était en partie n'importe
Comment
quoi.
Comment ça? Pourquoi?
Bien, fondamentalement, les femmes n'ont pas plus ni moins peur de l'échec que les hommes. Hein. C'est surtout, au fond, une question de personnalité. Par contre, et ça, c'est vrai surtout quand elles travaillent dans des milieux de gars, les conséquences d'un flop sont souvent pires pour elles parce que quand tu es toute seule de filles dans un groupe, tes gaffes paraissent encore plus. Et ça se peut aussi qu'on te les remette sur le nez plus longtemps. L'autre chose, c'est qu'elles subissent beaucoup de pression du fait d'être les pionnières dans certains milieux. Elles sont conscientes d'être un modèle pour les autres femmes, alors si elles échouent, elles vont avoir peur de les décevoir, hein, de tromper leurs espoirs et de donner raison aux hommes qui doutaient de leur capacité à occuper des postes clés.
Oui, mais dans ton reportage, quand même, ce qu'on apprend, c'est que la peur de l'échec, ça touche tout le monde, sans discrimination. En fait.
Oui, et ça, d'ailleurs, ça a été une surprise pour moi de découvrir à quel point se planter est devenu un tabou dans notre société. Hein. C'est carrément inacceptable. Sauf si t'es un entrepreneur, disons, comme Steve Jobs, qui a mordu la poussière pour mieux triompher à la fin. Là. Ça, ça ajoute une
ça
belle
petite... Ça prend une fin, Cendrillon.
Exactement. Oui. Ça ajoute une belle petite twist dramatique à ta biographie. Là. Mais pour le commun des mortels, un échec, c'est une grosse bavure sur l'image de perfection que beaucoup se sentent obligés de projeter pour avoir une certaine valeur aux yeux des autres. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'en voulant contourner l'échec, on passe à côté d'occasions d'apprentissage qui sont essentielles.
Oui, absolument.
Parce que quand nos affaires, c'est pas quand nos affaires roulent qu'on se pose le plus de questions sur nos comportements ou nos choix. Puis de toute façon, il est presque certain tôt ou tard qu'on va se planter. Bon, s'investir dans un projet qui nous tient à cœur, c'est formidable. Mais il faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Parce que si ça foire, c'est toute notre identité qui s'effondre. Il faut trouver d'autres sphères dans notre vie à travers lesquelles on se valorise. Ça peut être la musique, l'implication dans une cuisine collective, le sport, l'amitié. Ça aide à se sentir moins poche quand on vient de flopper dans un domaine de notre vie, disons, au travail. Et il faut aussi garder à l'esprit que la douleur de l'échec, ça va finir par passer. Il y a une étude récente qui a été faite auprès d'universitaires dont on suivait le destin professionnel. Et ce qui est ressorti, c'est qu'une déconfiture qui nous apparaît sur le coup comme une catastrophe monumentale, bien, ça finit par s'estomper avec le temps. On fait son chemin pareil, parfois autrement qu'on l'avait planifié, mais on trouve souvent son petit bonheur quand même.
Mais justement, en parlant d'exemples de petits bonheurs, tu en as quelques-uns dans le dossier parce que moi, j'ai quand même, j'avoue, été vraiment ébranlée même par les entrevues que tu as faites pour ça. Tu as interviewé, entre autres, trois femmes à qui il est arrivé dans leur vie de connaître des débâcles assez importantes.
Oui.
Entre autres, d'abord, Pauline Marois, oui, qui a été notre première ministre et dont la carrière politique, il faut le dire, s'est quand même soldée par la plus grosse défaite du Parti québécois. Oui. Tu as aussi interviewé Mitsou, qui, selon ses propres mots, rêvait d'être aussi big que Madonna.
Ouais.
Mais bon, on sait que sa carrière de chanteuse n'a pas nécessairement connu le dénouement souhaité, même si elle s'est bien réinventée. Et il y a Sophie Préjean aussi, dont j'ignorais cette histoire, mais qui a eu à vivre beaucoup d'échecs par rapport à son métier. Elle avait notamment été refusée à l'École nationale de théâtre. Elle a vu plusieurs bons, gros rôles lui échapper.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de ces témoignages-là?
De Mitsou, que j'ai trouvé immensément sympathique. D'ailleurs, je dois dire, je ne la connaissais pas. Je retiens une réflexion qui m'a beaucoup marquée. Vous savez, on entend souvent « persévère, ma fille, tu t'accroches, fort à ton rêve, tu vas voir, ça va finir par arriver. » Mais elle m'a dit, avec une grande lucidité, je trouve, « des fois, il aboutira pas ton rêve. T'auras beau suer sang et eau. » Puis là, le défi, c'est de s'ajuster à la réalité, de pas s'accrocher, de laisser tomber son ego, puis de trouver d'autres manières de s'accomplir. Elle l'a fait, par exemple, en devenant entrepreneur. Elle a fondé l'entreprise d'Asmo avec son chum, puis elle est très épanouie au bout du compte. Elle a aussi repris sa... En fait, elle a retrouvé un second souffle à sa carrière publique par l'animation radio. De Sophie Préjean, ce qui m'a frappée dans son discours, c'est que quand on s'investit dans quelque chose avec d'autres objectifs que de briller aux yeux des autres. En cas d'échec, ça fait mal pareil, on s'entend. Mais ça n'atteint pas notre motivation profonde. On continue à s'investir parce qu'au fond, on fait ce qu'on aime vraiment. Puis pour ce qui est de Pauline Marois, d'abord, j'ai été étonnée qu'elle accepte de se livrer avec autant d'ouverture et même d'émotion par moment.
Ça a été assez émotif quand même, comme
entrevue. Sur des questions qui sont douloureuses. Il faut dire que la blessure de la défaite électorale est quand même relativement fraîche. Hein?
Oui.
Puis manifestement, elle avait encore de la peine à l'idée d'avoir, dans son esprit, déçu les femmes qui se réjouissaient de voir enfin une femme à la tête de la province et qu'elle ait tenu le coup si peu longtemps, finalement. Mais je retiens de son expérience, en fait de ses expériences de l'échec, parce qu'elle en a vécu plusieurs quand même, l'importance d'être bien entourée de gens qui, sans être complaisants, nous aiment profondément et qui nous font confiance. Parce que la solidarité des autres, ça nous aide en maudit à se reconstruire.
Absolument, absolument. C'est une belle pensée philosophique voilà. Pour terminer cette entrevue. Merci, Marie-Hélène. Je voyais les filles qui hochaient de la tête durant la discussion. Donc, je passe à vous. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Est-ce que vous diriez que vous avez aussi peur de vous planter?
Oui, moi, j'ai posé la question aux gens qui m'entourent, à mes proches. Est-ce que vous avez déjà connu des échecs? Et ça m'a étonnée parce que personne n'avait vraiment d'anecdotes. Comme si la peur de l'échec était tellement forte qu'elle empêchait même qu'on prenne un risque. Est-ce que tu as constaté ça, toi, en faisant tes entrevues?
En fait, je craignais rencontrer de la résistance pour avoir des témoignages. Je pensais que ça serait plus difficile que ça, même pour convaincre Pauline Marois, par exemple. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y avait un biais, parce que les gens que j'approchais, ils étaient manifestement prêts à étaler cette partie-là. Puis, elles avaient le souci, je pense, de venir en aide à d'autres femmes et d'autres hommes aussi qui vivent des échecs en montrant, c'est pas si pire. C'est, finalement, on peut se rebâtir, il y a des moyens de s'en sortir, on peut se forger une résilience. Là.
Mais en fait aussi, parce qu'un échec, ça peut être très relatif. Hein, il y a des gens qui... Ça leur demande en fait une réflexion pour se dire est-ce que c'était vraiment un échec? Parce que plus tard, tu le disais bien, on en revient finalement de cette douleur et autres. Et si ça nous amenait à autre chose de plus stimulant, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui a changé notre parcours, tu sais, ce qu'on appelle les petits chemins de côté, là, tu sais, qui n'est pas nécessairement l'autoroute qu'on avait prévu prendre, ben, ça n'est plus vu comme un échec à partir de certains moments. Fait que c'est peut-être ça aussi qui influence la réponse
aussi,
des gens.
Oui, ça aussi, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un tabou autour du mot échec.
Absolument.
Les gens, ils veulent pas reconnaître. Ça, les spécialistes que j'interviewe m'en parlaient. Ils veulent pas reconnaître qu'ils se sont plantés parce que ça fait comme trop mal. Mmh. Puis le discours à la mode ces temps-ci, c'est chaque expérience va te servir. Y a rien ne se perd. Tout ça, sauf que dans la réalité là, je pense que la plupart des gens qui mordent la poussière, ça leur fait mal.
Absolument.
Il y a des déceptions,
il y a des bâtons, là, on s'entend.
Et j'ai l'impression aussi, je sais pas, tu me corrigeras, mais qu'à l'ère des médias sociaux, l'échec est vécu encore plus durement. En fait, on se compare sans cesse. Tu sais, quand on regarde les fils Facebook de nos amis, les fils Instagram, on a l'impression que leur vie est tellement parfaite. Donc là, l'échec acquiert une autre dimension. On se dit, si ma maison n'est pas Instagrammable, est-ce que j'ai échoué?
Il y avait une super anecdote dans la presse cette semaine à ce sujet-là. Il y avait une entrepreneuse québécoise qui racontait que elle avait embauché une de ses employées pour organiser le premier anniversaire de sa fille pour que ça ait l'air parfait. Elle ait l'air d'avoir une vie parfaite sur Instagram. Je trouvais ça...
Elle aurait décoré la maison?
Exactement. Une belle petite présentation de cupcake. Incroyable. Qui pris des photos pour qu'elle ait l'air d'avoir une vie parfaite. Non, mais c'est très symptomatique de ce qu'on décrivait.
Madame Saint-Laurent, qui a les yeux au ciel, tu ne peux imaginer que ça t'arrive.
Non, je trouverais ça... Moi, je me questionnais, en fait. Je savais de quel sujet on allait parler aujourd'hui, puis je me disais, c'est drôle, les anecdotes d'échecs que j'ai sont toutes liées à mon adolescence ou à... On dirait que dans ma vie adulte, c'est comme si j'avais voulu contrôler les risques que je prenais, toujours calculés dans le but d'être sûre d'avoir au moins un potentiel de réussite.
Peux-tu nous donner un exemple d'échec à l'adolescence?
Oui, mon cours de conduite!
À tous!
Oui! En fin de compte, je l'ai échoué et je sais pourquoi. Je n'ai pas assez travaillé.
Bon.
Je le sais.
Pause, parce que tout le monde a levé le doigt.
Non!
Ici. Êtes-vous toutes en train de me dire que vous avez manqué votre cours de conduite?
Tellement!
Oui. Non! Et la seule qui l'a réussi du premier coup.
Et moi, je l'ai réussi en Saskatchewan.
Encore mieux!
Mais moi, je ne l'ai plus jamais réussi. J'ai 40 ans et je ne conduis pas.
Moi, j'ai un permis de conduire depuis 2 ans.
On voit que c'est pas notre tasse de thé ici, mais ça, sinon on a plein d'autres belles qualités, n'est-ce pas?
Oui.
Mais c'est vrai, Sophie, j'abonde dans ce que tu dis par rapport au fait qu'on se fait aussi un destin, des fois un petit peu padé de filet de sécurité, en ce sens où des petits coussins, on se dit, je vais faire ce choix, c'est un risque, mais un risque modéré, puisqu'il est dans mes aptitudes, mes intérêts et autres.
Oui.
C'est très rare qu'on travaille nos faiblesses.
Non, c'est vrai, ça... Puis, en même temps, ça devient de plus en plus un défi. Moi, j'aime ça parce que ça devient un contre-discours. Tu sais, à l'heure où tout est exposé dans les réseaux sociaux et la performance, il y a quelque chose, je trouve, on devrait lancer une tendance. Assumons. la tendance casse-gueule.
Allez bientôt dans le chat. Là.
Exactement.
J'ai revu la rue des chaînes, bien blanc. J'ai fait un tour d'Assane, moi, bien blanc.
les yeux frippés de la lumière blonde. J'ai fait un jour de sein de moi ma vieille blonde. J'ai pas su sortir du charme ma vieille blonde. Je pense à toi en scène de lui ma vieille blonde. J'ai cherché
que vous connaissez ce morceau-là?
Je le reconnais un peu.
Oui. Je reconnais la voix. Bien, c'est en fait l'extrait d'un album dont Mathieu Charlebois va venir nous parler un peu plus tard à l'émission dans le segment culturel. Mais d'abord, Joanne Lauzon,
oui. Tu
vas déboulonner quelques mythes autour de la santé dans le cadre de cette émission, mais je trouve que tu nous commences un peu raide. Là.
Oui, je commence fort, c'est
d'avortement.
Vrai. Oui, d'avortement. Ouch. En fait, les femmes qui ont recours à l'avortement, souvent on a une image que ces femmes-là regrettent leur geste, qu'elles sont marquées à jamais par la décision qu'elles ont dû prendre. On a tous entendu ça.
Ben oui, évidemment. Ben, oui, on entend ça souvent et c'est ce qu'on pense parce qu'on peut imaginer que c'est une expérience très éprouvante à vivre.
Éprouvante est le bon mot. On ne choisit pas d'interrompre une grossesse de gaieté de cœur. Mais contrairement à ce qu'on entend, Christelle, l'avortement ne laisse pas de séquelles psychologiques.
OK.
C'est ce qui ressort d'une étude qui a été menée aux États-Unis auprès de 700 femmes qui avaient eu recours à une interruption volontaire de grossesse 6 mois ou 3 ans auparavant.
Quand même du long terme, quelques années
après. Tout
à
fait. Oui. 95% d'entre elles ont dit n'avoir aucun regret.
95.
Qu'elles avaient fait le bon choix.
Oui. C'est pas rien. Je dois avouer que ça m'étonne un peu. Je pensais que c'est, ce serait dans une moindre mesure, certainement. Parce que là, ça vient ébranler un petit peu le discours qu'on entend, entre autres, beaucoup chez les pro-vie, qui consiste à vouloir protéger les femmes, surtout les jeunes femmes, contre elles-mêmes, en disant c'est sûr qu'elles vont le regretter plus tard. Mais là, ça vient jouer dans.
Exactement. Ce discours paternaliste, en fait, qui influence l'opinion publique, les politiques, les lois, et qui restreint aussi l'accès aux cliniques d'avortement aux États-Unis, mais aussi dans certaines provinces canadiennes. Fait que ces résultats de recherche pourraient donc aider à changer cette perception erronée qu'on a de l'avortement.
Mmh.
Alors, même si c'est une décision difficile, rassurons-nous, l'avortement n'entraîne pas de séquelles psychologiques.
Oui. Très intéressant. Merci beaucoup, Joanne.
Merci.
Peut-être est-ce que le phénomène vous était-il familier, mais en tout cas pour moi, c'est complètement nouveau. En mode, il y aurait une tendance de plus en plus marquée, ça s'appelle la customisation. Et là, j'entends déjà nos amis de l'Office québécois de la langue française grincer des dents. Mais bon, avant toute chose, dis-nous donc, Sophie, de qu'est-ce que c'est ça?
Mais tu as raison, Christelle, la customisation, c'est un emprunt au mot « customize » en anglais, un mot qui vient lui-même de « custom made », qu'on traduit par « fait sur mesure ». Donc, si on veut être politiquement correct, il faudra dire personnalisation des produits de mode. Alors, la vraie définition, c'est de modifier un bien fabriqué en série ou un service pour l'adapter au goût particulier d'un client.
Dans le cas de la mode, par exemple, est-ce que ça voudrait dire, je ne sais pas, moi, faire un monogramme sur un sac à main ou sur une manche de chemise, parce qu'on voit déjà, parce que ça, ce n'est pas nouveau.
Oui, bien, effectivement, en fait, il est question ici de sur-mesure de masse.
Ah, okay.
Donc, par opposition aux sur-mesures ou à la haute couture, qui sont réservées à l'élite, parce qu'il faut se dire, ça coûte la peau des fesses.
Exact.
Alors, petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, un tailleur Chanel en sur-mesure, confectionné à la main, va coûter à peu près 30 000 $ canadiens.
Ah oui, d'accord.
Et ça peut monter de manière exponentielle parce que si on parle d'une robe de soirée qui est brodée à la main chez le sage, par exemple, on parle de 260 000 $ canadiens, 300.
Une maison.
Une maison,
une robe. Allez-y, choisissez.
Oui. Et en parfumerie, ça existe aussi. Hein. Il y a des concepts de parfums uniques, sur mesure, qui sont issus d'une consultation. La Maison Guerlain à Paris fait ça. Donc, c'est une consultation avec un client, mais c'est vraiment très, très élaboré sur les goûts, les souvenirs et tout ça. Donc, pour avoir ton flacon, en fait, ta formulation personnalisée.
Mettons, ça peut coûter... Eau de Christelle.
Eau de Christelle peut coûter...
Très cher.
partout entre 25 et 65 000 $
Ah, d'accord.
Dépendant des ingrédients
que tu vas choisir. On va attendre un petit peu. Et là, tu nous parles que c'est donc possible pour la masse.
Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les nouvelles technologies et surtout l'éclosion du web, cette personnalisation est plus réservée aux richissimes ou à l'élite. C'est quand même accessible à monsieur, madame, tout le monde. Donc, ce n'est plus commun aujourd'hui de voir des entreprises, par exemple, nous laisser élaborer notre propre teinte de rouge à lèvres, de choisir les différents ingrédients actifs, par exemple, dans une base de crème qui existe déjà selon les besoins de notre peau ou les odeurs qu'on aime. Même on peut choisir de faire son jean en ligne avec des composantes qu'on aurait choisies, la coupe et le style et tout ça. Puis en plus, ce jean-là va être ajusté à nos propres mensurations.
Mais est-ce que ça, c'est disponible déjà ici parce que tu faisais des références quand même à des marques américaines?
Oui, puis en fait, ça ne vous étonnera pas, la customisation, le mot, c'est très européen, c'est ça, en fait, d'adapter un mot de l'anglais. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fort depuis une dizaine d'années, je dirais, en Europe. Et ça commence un petit peu donc, c'est des technologies souvent qui vont coûter cher pour les entreprises. Donc, ça commence à s'implanter ici. Donc, il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la compagnie américaine New Balance offre le service.
Qu'on aime beaucoup.
Qu'on aime beaucoup parce que, bon, les New Balance, maintenant, les chaussures sont devenues aussi in pour jogger que pour sortir en ville. Donc, les New Balance, sur le site canadien de la marque, nous permettent de décider de certaines composantes de trois produits de base. Donc, il y a trois numéros de chaussures. Donc, le 574 qui est le fameux running rétro qu'on aime. On peut en choisir différentes composantes. En fait, les composantes sont les mêmes, mais on part du principe qu'on peut choisir les couleurs et certains matériaux. L'interface est super facile. C'est un peu comme un coloriage quand les enfants jouent sur Internet à colorier certains dessins. C'est ça. Donc, ils vont pointer le curseur de la souris sur une partie de la chaussure et choisir une couleur. Donc là, les combinaisons sont vraiment sont à l'infini. Puis franchement, c'est vraiment amusant. J'ai fait ça hier. Ouais. C'est vraiment le fun.
Mais est-ce que ça coûte le prix d'un tailleur Chanel? Moi, c'est ça ma première question.
Mais c'est ça la beauté de la chose. C'est que non. C'est qu'en fait, il y a même une étude qui avait sondé les internautes et qui disait, une étude britannique qui dit que les gens sont prêts à payer jusqu'à 20 à 30 de plus pour un produit de base qui serait modifié selon leur désir personnel.
C'est à peu près ce que j'ai vu, en fait,
pour différents... donc, les New Balance, c'est le service s'appelle le NB1. Il y a trois modèles. Puis en plus, un autre préjugé qu'on a, c'est sur la livraison. On a l'impression que ça va prendre 3 mois à faire fabriquer la fameuse chaussure. Mais non, on parle de 12 à 14 jours de fabrication, une autre semaine pour la livraison, un processus qui prend 3 semaines au total.
Quand même
accessible au niveau du coût. Donc, on parle de 179 à autour de 300 $, je pense, pour différents modèles, selon un modèle de performance ou un modèle de ville.
Tu me parlais aussi d'une compagnie québécoise, hein, ici. C'était pour le bar à lunettes, dont
oui,
tu parles.
Oui, exactement. Alors, ça existait déjà en Europe. Donc, Marie-Sophie Dion, qui est une opticienne qui a différents bars à lunettes, je pense qu'elle est rendue à 4 succursales, offre un service qui s'appelle l'atelier Marie-Sophie Dion, où on va aller en consultation pour co-créer finalement notre monture de lunettes. Donc, c'est assez intéressant. J'avais jamais vu ça ici. Et là, c'est vraiment une entrepreneur québécoise. C'est assez le fun. On va choisir les matériaux, la forme, les couleurs, d'autres détails de la lunette. Et, par exemple, ce qu'on voudrait dans le verre, mais ça, c'est assez commun, là. De toute façon, les teintes de verre et tout ça, on le fait déjà chez d'autres opticiens. Donc, on va, en fait, co-créer. Et ensuite, l'opticienne va prendre des mesures précises de notre visage. Ensuite, va faire un dessin sur une photo numérique. Proposer et ensuite on met en production. Alors là, je vois Marie-Hélène qui me fait un signe de dollars. Mais vous savez, déjà une lunette haut de gamme, une monture de lunettes, c'est vraiment très cher si on compte même pas les verres. Donc elle, c'est un service 595 $, je crois. Ça exclut les verres. Mais il y a des montures dans des marques de luxe et même dans des designers de montures, là, des créateurs à proprement dit, qui vont plus cher que ça. Donc là, on a un produit qui est fait vraiment sur mesure et qu'on a co-créer, finalement, avec l'opticienne.
Ah, c'est intéressant. Là, tu nous parlais plus de mode, mais rapidement, tu as évoqué tantôt des crèmes. Donc, ça se fait aussi dans le cosmétique.
Oui, ça existe. Je n'ai pas trouvé d'entreprise qui livre au Canada pour l'instant. Donc, il y a différentes entreprises américaines qui offrent de partir d'une base neutre et de mettre les composantes qu'on veut. Mais ici, il y a quelque chose d'intéressant. Une ancienne mannequin qui s'appelle Ruby Brown a parti un concept qui s'appelle Essence Workshop. Donc, ce sont des ateliers de 2 heures auxquels on assiste dans et à l'issue duquel on va pouvoir créer sa propre fragrance. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un processus aussi élaboré que si on allait chez Guerlain à Paris, mais c'est quand même intéressant et on repart avec une formulation qui nous est unique, qui est archivée et qu'on peut réutiliser par la suite, en fait, qui est archivée dans leur base de données pour les commandes futures.
J'ai peut-être plus de chance là pour mon autre Christelle, finalement.
Exactement.
OK. Merci beaucoup, Sophie. Alors, ça en passe des affaires, comme vous voyez, pas seulement dans le monde de la mode, mais aussi dans le merveilleux monde du web. Martina, rédactrice en chef numérique, tu nous parles de nouvelles virales, mais tu le fais quand même d'une façon originale, on va le dire, dans cette chronique que tu appelles « On mijote l'actu ». Donc, tu nous proposes une recette pour mieux digérer une nouvelle.
Oui, c'est ce qu'on fait sur le site chaque semaine. En fait, on reprend une nouvelle qu'on trouve drôle ou qui nous a marqué, qui fait le tour du web, et on la traite d'une manière un peu décalée parce qu'on propose une recette de châtelaine pour mieux digérer la nouvelle.
Mais là, cette semaine, tu nous parles d'un sujet assez cocasse quand même. Une poupée, mais elle qui vient pas là avec des jolies tenues ou un petit caniche à ruban comme toute bonne Barbie. Elle vient avec son kit pour menstruation.
Oui, exactement. C'est la poupée Lamélie. Donc, la poupée, elle a été créée en 2014. Elle a un an. Et tous les médias en parlent depuis qu'elle a été lancée sur le marché parce qu'elle ressemble beaucoup aux Barbie, mais elle est plus réaliste. C'est-à-dire que son créateur l'a faite selon les proportions moyennes des jeunes filles américaines de 19 ans.
Donc, c'est des vrais standards. Là.
Oui, c'est des vrais standards et c'est une poupée qui ressemble donc à la Barbie, mais qui est plus moyenne.
Oui. J'imagine. En grandeur et en poitrine.
En tour de taille, certainement, parce que, en fait, elle a peut-être une bonne tête de moins que Barbie. Elle a une poitrine qui est pas mal moins imposante. Elle a des pieds qui sont plats, donc qui sont capables de chausser des chaussures de course. Et elle pourrait même tenir debout si elle était réelle, contrairement à Barbie.
Ça, voilà qui
elle serait totalement déséquilibrée par sa poitrine en forme d'obus.
Oui.
Donc, Nicolas Elam est un designer graphique et c'est lui qui a créé cette poupée. Il l'a fait pour dénoncer en quelque sorte les standards de beauté irréalistes véhiculés par la poupée de Mattel.
Ben oui,
parce que bon, on sait qu'elle ne pourrait absolument pas exister dans la vraie vie. Et pour lui, c'était une façon d'offrir une alternative aux petites filles pour qu'elles aient autre chose comme modèle et pour qu'elles puissent s'identifier à quelque chose de plus réaliste.
D'ailleurs, tu réalises pas à peu près. Tu parlais, elle vient avec des autocollants. Qu'est-ce qu'il y a? Acné?
Donc oui, on peut la personnaliser. Elle vient avec des autocollants d'acné, de vergetures, de cellulite.
C'est incroyable.
Bon, on peut trouver...
Customise ta Barbie.
Customise ta Barbie, puis rend-la plus réelle.
Moi, je l'aime déjà.
Est-ce qu'il y a une modèle ménopausée?
Oh, écoute, ce serait à lancer sur le marché.
Moi, je prendrais l'extra vergeture.
Ça existe. Puis en fait, on peut trouver que ça va loin, mais en fait, l'idée, c'est pour lui, c'est juste de dire la normalité peut être belle. On n'est pas obligé de ressembler à une fille parfaite et extraterrestre pour être jolie.
Mais là, il va dans la vraie, vraie réalité. C'est-à-dire qu'elle, elle vient avec des serviettes hygiéniques. Là.
Oui, c'est ça. Là, la poupée, Lamélie, elle peut avoir ses règles. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de sang qui sort, il n'y a pas de liquide bleu qui est versé sur des serviettes hygiéniques pour montrer comment ça marche. C'est juste qu'elle vient avec un kit de serviettes. Donc, c'est 18 autocollants en forme de serviettes hygiéniques. C'est coloré, c'est cute.
Est-ce qu'elle a l'air grincheux?
Non, elle garde sa face.
Elle a un autocollant de face bête.
C'est clair. Mais non, en fait, on peut juste acheter, donc, moyennant 10 $, on achète ce kit de 18 serviettes autocollantes et ça vient avec un livret éducatif.
Ah, donc, ça, c'est intéressant quand même.
Oui, donc l'idée, c'est d'expliquer les règles aux petites filles puis de leur expliquer ça d'une façon ludique, d'une façon, en fait, de ne pas associer la honte ou le dégoût à ce phénomène-là.
Et ça, d'ailleurs, ça s'inscrit quand même dans une tendance. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment en ce moment, d'initiatives pour justement dénoncer ce tabou là, qu'il y a autour des règles. On ne peut pas présumer du succès, mais on peut saluer l'initiative du créateur. C'est quand même intéressant de créer un
anti-modèle. Oui, ça reste une alternative vraiment intéressante.
Je suis quand même curieuse de voir quelle recette tu nous proposes pour aller avec cette nouvelle.
Alors, la recette, ben, j'ai eu envie de vous proposer quelque chose où on peut accepter nos imperfections, donc un dessert qui pardonne. Et je me suis fiée en ce domaine aux meilleurs conseils que ma mère m'a jamais donné en matière de dessert. Elle m'a dit, ma fille, si jamais tu rates un gâteau, tu mets tout dans un robot culinaire, tu le mixes et tu fais des boulettes.
OK, d'accord, j'aime ça.
Et ça marche.
Donc, c'est ce que tu nous proposes.
Oui, ça marche parce que sérieusement, à chaque fois que je vais manger des boulettes au chocolat chez ma mère, je sais que c'est un gâteau qui a été raté.
Excellent.
Mais ça goûte bon. Ça goûte bon. Et là, cette semaine, donc, j'ai envie de vous proposer des boules au chocolat et au rhum que vous trouverez sur le site de Châtelaine. Donc, l'adresse, c'est châtelaine.com/ on mijote l'actu.
Puis tu nous en as pas amené.
J'en ai pas amené.
Le rhum aurait été apprécié ce matin.
Oui, la prochaine fois.
Puis si les boulettes vous plaisent pas, il faut toujours mettre Barbie dans le robot, mais là, on garantit pas le résultat. Merci beaucoup, Martina. Vraiment, c'est super intéressant. On vous a fait entendre tout à l'heure un extrait d'un album. Eh bien, c'est ça vient d'un album Coup de cœur dont va nous parler Mathieu Charlevoix, qui est notre invité aujourd'hui à la chronique Lu, vu, entendu, qui est notre segment culturel. Je suis plutôt contente parce que, premièrement, ça me permet de vous présenter Mathieu, si vous ne le connaissez pas, parce qu'il est so famous, vous le connaissez peut-être
sur
déjà.
Sur les internets.
Tout est relatif.
Hein.
Tout est relatif. Et c'est aussi le réalisateur de cette balado-diffusion, et je dois le préciser, seul homme dans l'aventure. Alors, Mathieu, tu survis?
Ça va très bien.
Ça se passe bien?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a entendu là? Moi, je pense avoir reconnu la voix, mais
Difficile à manquer comme voix.
Oui.
Hein? C'est un Philémon Simon, anciennement connu sous le nom de Philémon Chante, et il a changé entre son premier et deuxième album. La chanson s'appelait « Vieille blonde ». Et je vais dire tout de suite avant de l'oublier, mais la chanson qu'on va entendre en sortant de la balado va s'appeler La musique, qui est ma préférée de ce disque-là. Disque qui s'appelle Les femmes comme des montagnes.
Ah, coudonc. C'est des titres interpellants.
J'aime
pour le meilleur et pour le pire.
Et donc, c'est son troisième album. Il y a donc eu L'été, il y a eu L'été qui était son deuxième, et avant ça, Les sessions cubaines.
Oui,
donc, Les sessions cubaines qui étaient enregistrées à Cuba. L'été qui est enregistré à Montréal et là pour son troisième album, il est allé à Cuba avec des musiciens montréalais.
Ah bon, un gars cohérent quand même.
Il a fini son cycle, j'imagine. ça sent comme une fin de cycle. Et tu disais l'album Session cubaine était magnifique, mais était aussi très déchirant et était rempli à 70% de ballades, je crois.
Oui, c'est ça.
Le deuxième album était à 50% de ballades. Et là, il a encore baissé son taux de ballades. Il est rendu à peu près à 20% de ballades. Ce qui fait...
C'est une bonne idée?
D'après moi, oui, parce que ça fait un album plus dynamique, qui s'écoute dans plus de circonstances. Hein? À un moment donné, un gars qui pleure avec sa guitare, ça va pas dans toutes les circonstances. Donc, ça fait un album un peu plus universel, disons, si on veut. Mais en tout cas, un album plus dynamique. Et je trouvais ça intéressant d'emmener Philémon Simon aujourd'hui parce que le thème de la première balado, c'est échec.
Oui.
Et ce gars-là, je suis pas en train de dire qu'il se plante tout le temps, mais c'est un gars qui se donne le droit d'essayer des choses.
C'est
vrai. Je me souviens d'un article de Philippe Papineau dans Le Devoir qui commençait par raconter qu'il était dans un restaurant pour une entrevue avec Philémon Simon. Et là, il se commande des smoothies. Et Philémon Simon, c'est pas qu'est-ce qu'il va prendre. Fait qu'il demande à la fille, fait que c'est qu'est-ce que vous avez, puis elle nomme les ingrédients. Puis il finit par prendre, au feeling, avocat bleuet.
OK.
Parce que c'est ce que son instinct il a dit de faire, puis il a pris avocat bleuet. Finalement, c'était pas génial, mais c'était surprenamment correct,
bon,
semblerait.
C'est un gars qui fonctionne comme ça.
Il fonctionne aussi comme ça dans la musique. Il rassemble des gens dans un local que des fois qu'il a jamais vu de sa vie, puis il joue la pièce des fois pour la troisième fois quand il pèse sur le bouton enregistrer.
Ça ressemble à notre balado finalement.
Si, ben un peu.
Ouais, c'est super.
Et si c'est bon ce qui en sort, ben il le garde avec toutes les erreurs que là. Ben, ça s'appelle des erreurs officiellement, mais dans la vraie vie, c'est juste la vie que ça s'appelle.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'imparfait, un peu, je pense, entre autres, aux sessions cubaines, puis c'est ce qui fait son charme.
Il y en avait beaucoup, il y avait trois jours pour enregistrer son album complet.
T'as l'impression qu'il est dans la pièce avec toi, en fait.
Exactement, tout est enregistré en même temps. L'instinct est encore là dans cet album-là, mais disons qu'il est mieux maîtrisé, peut-être qu'il a pris plus de temps, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais on sent, il réussit de plus en plus à doser cette prise de risque-là et l'importance quand même de s'appliquer puis des fois travailler un peu plus longtemps sur un produit. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire en quatrième disque, qu'est-ce qu'il va essayer maintenant, parce que comme je dis, il y a un côté fin de cycle à ce disque-là, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va essayer. Peut-être qu'il va se planter pour la première fois, s'est planté pour vrai. Ça n'est jamais arrivé. Il essaye, mais ça va tout le temps bien.
Bon, mais on
donc,
va
c'est une leçon de vie. Essayez.
Essayez. Ça marche. Vous pouvez faire trois albums là-dessus.
Voilà.
Intéressant. On va se laisser là-dessus. De toute façon, en musique, c'est ce qui termine notre première balado. J'espère que
bravo,
ça n'a pas été trop pénible. Pour nous, je pense que ça a été plutôt sympathique, mais éprouvant. En théorie, on revient. Vous devriez avoir une nouvelle balado. D'ici deux semaines, j'espère que vous serez avec nous. Puis, n'hésitez pas à venir réagir sur notre page Facebook en tout temps. Sur cette balado, mais sur toute autre chose qui vous préoccupe, vous intéresse. Alors, merci encore Joanne Lauzon, Sophie Saint-Laurent, Martina Diogo, Marie-Hélène Proulx, Mathieu Charlebois, notre réalisateur.
Merci
et à bientôt.